Merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. Je suis maintenant en compagnie d'Elisabeth Laurodol. Bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes romancière, anciennement professeure de lettres et philosophie, et vous venez aujourd'hui nous présenter La Mijaurée d'Auguste C. aux éditions Diabase, un roman qui nous offre l'occasion de redécouvrir Auguste Comte, le père du positivisme, cette religion du progrès et de l'harmonie, mais de le découvrir sous un angle particulier, celui de l'intime, celui de ses relations. Il fut l'époux de Caroline Massin, et en même temps, il était passionnément amoureux de Clotilde Devaux, sa dite Mijaurée. Et vous vous amusez, chère Elisabeth, à exploiter la frontière entre biographie et fiction, à en faire un espace de rencontre pour que nous, lecteurs et lectrices, puissions découvrir sous un nouveau jour Auguste Comte. Pour commencer, ma question sera très simple. Pourquoi ce roman ?
Alors, pourquoi ce roman ? Parce que je ne sais qu'écrire, donc c'est déjà une bonne réponse. Maintenant, pourquoi ce roman sur Auguste Comte ? Ça remonte très loin. Pourquoi parler des femmes et avoir imaginé cette fiction ? C'est aussi quelque chose qu'il faudrait que j'explique. Alors, pourquoi ce roman ? Ce roman est en gestation depuis peut-être 50 ou 60 ans en moi. J'ai connu Auguste Comte quand je faisais... J'ai connu la pensée, la philosophie d'Auguste Comte quand je faisais mes études de philosophie. Et c'est le seul philosophe dont je sois tombée, non pas amoureuse, mais qui m'a touchée en moi, autrement que par les idées. Peut-être je pourrais, Didier, si vous êtes d'accord, commencer à dire que je suis au bon endroit, dans une radio lusophone, qui est écoutée par le Brésil, pour parler d'Auguste Comte. Parce qu'Auguste Comte, les Français ne connaissent plus. Alors que ça a été un des philosophes les plus suivis au XIXe siècle.
Oui, c'est une question que je voulais vous poser. Lit-on encore aujourd'hui Auguste Comte ?
Non. En fait, il a été extrêmement important. D'abord, le positivisme, c'est-à-dire sa philosophie, a été extrêmement importante jusqu'à la moitié du XXe siècle. Mais franchement, il est complètement oublié. Mais c'est normal, je veux dire. Dans l'histoire des idées, il est tout à fait normal qu'un clou chasse l'autre. Bon, seulement... Pourquoi c'est important d'être dans une radio lusophone ? Parce que si à la fois la mémoire et la pensée d'Auguste Comte sont encore vivantes dans ce pays, c'est grâce aux Brésiliens. Et ça, il faut le savoir. Il faut savoir, par exemple, que tout ce qui est la philosophie positiviste a été sauvegardé grâce à quelqu'un qui s'appelait Paulo Carneiro, qui était ambassadeur du Brésil à l'UNESCO et qui a fait des pieds et des mains pour racheter non seulement la maison d'Auguste Comte, mais qui a rue Monsieur le Prince, mais qui était passionné par sa philosophie et qui était membre de la religion, enfin de positiviste du Brésil. Je crois que son père, ses parents étaient positivistes au sens de la religion. Pourquoi est-ce qu'Auguste Comte a été si décrié ? C'est précisément parce qu'il est passé d'une philosophie, donc de pensée philosophique, à une pensée religieuse. C'est-à-dire qu'il a imaginé, à la suite de sa philosophie, une religion, la religion de l'humanité, qui est apparue comme un non-sens. Bon, il faut savoir que Auguste Comte est né en 1798. Donc, il est né après la Révolution. À Montpellier. Il est né à une époque qui était l'époque post-révolutionnaire, où la France n'était absolument pas remise de ce cataclysme extraordinaire qu'a été la Révolution 89. Rien ne marchait en France. C'était le brigandage généralisé, les rentes, on ne les touchait plus, les écoles, ça n'existait plus, etc. Donc, il y a eu une bonne trentaine d'années où il a fallu reconstruire d'une certaine façon. Bon, après est arrivé Napoléon qui a reconstruit comme on sait, etc. Puis de nouveau, la monarchie a été réinstallée pendant un certain temps, la monarchie plus le Deuxième Empire. Et donc, ce que voulait Auguste Comte, c'est ce que voulaient tous les penseurs de son époque, c'est trouver un moyen pour que la société fonctionne. Voilà. Alors, lui a trouvé un moyen extrêmement scientifique, c'est-à-dire que sa philosophie, ça a d'abord été la classification des sciences, depuis les mathématiques jusqu'à la sociologie. On lui doit d'ailleurs le nom invention de cette science sociale comme quelque chose passé d'une science à l'autre comme étant un progrès de l'esprit. Et l'idée d'Auguste Comte, c'est que l'humanité passe par plusieurs phases et donc nous sommes tous tributaires de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont pensé avant nous. L'humanité est une grande chaîne. Donc c'est vraiment le fondement de la philosophie d'Auguste Comte. Toujours est-il que quand j'étais étudiante, cette philosophie m'a absolument séduite parce que je l'ai trouvée profondément humaine, contrairement à d'autres philosophes qu'on me faisait lire, que ce soit Emmanuel Kant, etc. Bon, donc que je lisais sans forcément comprendre ce qu'il disait. Là, j'étais face à un homme qui était un philosophe qui était humain, qui faisait de l'humanité le centre vraiment et de sa réflexion et de son souci, et qui avait donc des valeurs qui me semblaient correspondre aux miennes. Et puis indépendamment de ça, la vie d'Auguste Comte, qui a été assez difficile et assez tragique d'une certaine façon, m'avait émue. C'est un homme qui a quand même passé par l'asile, si on peut dire, c'est-à-dire qui a été enfermé pour démence, voilà. Mais Didier, vous allez penser que je dis tout et n'importe quoi. Tout a un sens, d'accord. Mais merci aux Brésiliens. Parce que les Brésiliens, donc, et notamment grâce à Paulo Carneiro, ont maintenu la pensée positiviste en France. Et donc, Paulo Carneiro a travaillé beaucoup sur tous les manuscrits d'Auguste Comte. Et finalement, il les a donnés à la Bibliothèque nationale, estimant évidemment que ça faisait partie de ce qui était dû à la France. Et nous devons aussi un autre Brésilien qui s'appelait Teixeira Mendes, l'achat de la Chapelle de l'Humanité, où demain je présente le livre.
Absolument.
La Chapelle de l'Humanité, c'est le seul temple positiviste à Paris et je crois même en France, et qui a été racheté par des Brésiliens qui faisaient partie de la religion, enfin en tout cas de positiviste.
Et on va revenir justement sur la rencontre de demain à la Chapelle de l'Humanité. Vous écrivez dans votre roman, Elisabeth, vous dites d'Auguste Comte qu'il est le plus grand penseur que l'Occident ait produit depuis Kant.
C'est lui qui le pensait. Donc, je le fais penser. Je ne sais pas ce que je pense moi-même et peut-être je ne suis pas assez grande philosophe pour penser là-dessus. Et donc, je n'ai pas suffisamment de points de comparaison. Je n'ai peut-être pas, ma culture est peut-être insuffisante là-dessus. Non, c'est lui vraiment qui pensait qu'il était un grand philosophe. En fait, même sa folie, donc qui a été concrétisée par des accès de démence, etc., venait peut-être du fait qu'il ne se sentait pas reconnu à sa juste valeur. Il savait que sa pensée était une pensée peut-être pas nouvelle, mais qu'elle s'inscrivait en tout cas dans une histoire de l'humanité qui devait monter vers le haut. Pour en revenir au Brésil, la devise brésilienne, c'est Ordem et Progresso, je crois.
Enfin, Ordem et Progresso, effectivement.
Voilà.
Ordre et progrès.
Ça vient directement de la devise de Comte, à savoir l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Et donc, c'est quelque chose, alors évidemment, qui peut paraître, l'ordre et le progrès, c'est quelque chose qui peuvent, de notions, de concepts qui peuvent paraître un peu contradictoires, mais qui ne le sont pas vraiment, en tout cas, qui permettent. Il est certain qu'il ne peut pas y avoir de progrès sans ordre, et ça, il a évidemment beaucoup insisté là-dessus, c'est sûr.
Dans votre roman, vous décrivez très bien les deux Augustes. D'un côté, le philosophe, le rationaliste, père du positivisme, on le disait, et de l'autre, un homme pénible et égoïste, à l'ego surdimensionné, un fou.
Oui, j'ai pas été très sympa avec Auguste Comte, finalement, dont je pense beaucoup de bien. Mais effectivement, je pense que sa relation aux femmes a été un petit peu particulière. En fait, je le fais vivre sa folie qui était devenu intérieur face à deux femmes face auxquelles il savait pas trop comment être. En fait, c'est ça. Moi, le roman fait se rencontrer deux femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Caroline Massin, qui était la femme de Comte, mais qui a été répudiée par lui et dont il a dit, paraît-il, pique-pendre dans son testament. Il a dit que c'était une femme publique et qu'il l'avait sauvée de la déchéance, etc. Enfin bref, il n'a pas été très sympa avec elle, alors que c'était une femme extrêmement intelligente, on en reparlera. Et il est tombé, donc, pendant un an amoureux fou de Clotilde Devaux, qui était la sœur d'un des élèves qu'il avait eu à l'école polytechnique. Voilà. Donc, ces deux femmes vont se rencontrer. Il se trouve que Clotilde Devaux s'est toujours refusée à Auguste Comte. Elle n'a jamais été sa maîtresse. Et que Auguste Comte, qui avait visiblement des besoins très précis de ce côté-là, n'arrêtait pas de la harceler. Et Caroline Massin, j'imagine qu'à un certain moment, elle se dit, elle voit Auguste Comte devenir fou de cet amour, et elle se dit, il va retomber fou, comme il a été, comme j'ai soigné à un certain moment. Et donc, il faut que je convainque Clotilde Devaux de lui céder. Et donc, voilà. C'est ça, si vous voulez, le sujet ou
c'est
le scénario
le roman,
complètement.
Ouais.
Voilà. Donc, ces deux femmes ne se sont pas connues. Elles se sont d'autant moins connues que finalement, Caroline Massin, la femme d'Auguste Comte qu'il avait répudiée, n'a connu l'existence de Clotilde que après la mort de Clotilde, donc elle ne connaissait pas du tout cette femme. Mais bon, je l'ai fait se rencontrer, elles se rencontrent, on imagine que ça va se passer curieusement entre elles, et en fait, la surprise est au bout, si on peut dire, et si on veut bien lire mon roman.
Absolument, qui s'appelle La Mijaurée d'Auguste C, et a été publié aux éditions Diabase. Vous disiez ne pas avoir été tendre avec Auguste Comte, voilà la description physique que vous en faites. Auguste Comte est laid, je cite, il est petit, son torse est long, son ventre est gros, ses jambes sont courtes, rien n'a jamais eu les proportions rêvées chez lui, sa bouche qu'un tic déforme est mince, le blanc de ses yeux est veiné de rouge, ses cheveux sont rares et la mèche Napoléon qui lui tombe sur le front ne fait plus illusion, il sera irrémédiablement chauve dans quelques saisons.
Bah oui, parce que tous les portraits qu'on a d'Auguste Comte sont pas, on va voir un homme absolument accablé apparemment par la misère du monde, qui ne sourit jamais, qui a peu de cheveux, etc. Donc là, j'en ai remis peut-être un petit peu, d'autant plus que mes lecteurs me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux, etc. Mais si on réalise, il n'était pas si vieux que ça, mmh. Il est né en 1798, mon roman se passe sur une journée, c'est une journée d'avril 1846, il a 48 ans, donc c'est quand même pas le barbon, mais là je crois que j'ai forcé le trait, et bon
c'est forcé le trait physique pour faire ressortir le caractère aussi.
Voilà, exactement. Et puis comprendre aussi peut-être les réticences, et plus que les réticences, de Clotilde Devaux dont il était amoureux. Je veux dire, Clotilde, à un certain moment, elle est venue le voir, elle lui avait promis que oui, ça se ferait, elle serait à lui, etc. Et au dernier moment, elle a reculé. Donc, elle a reculé, je suppose que si Auguste Comte avait été un séducteur fait homme, voilà. Je pense que la véritable raison était là, et c'est quelque chose sur quoi j'insiste pas trop, mais je pense que le lecteur le comprendra, quoi. C'est tellement évident.
Et nous allons, Elisabeth Marquet, pour le moment, une courte pause. Radio Alpha. Merci d'écouter l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis toujours en compagnie d'Elisabeth Laureau-Dole qui vient nous parler de son dernier roman, La Mijaurée d'Auguste C, publié aux éditions Diabase. Un roman tout à fait dans l'air du temps, disons, car il accorde une grande importance aux femmes et à leur rôle. Il n'y a qu'à lire l'épigraphe, je cite, « Supérieure par l'amour, mieux disposée à toujours subordonner aux sentiments l'intelligence et l'activité, les femmes constituent spontanément des êtres intermédiaires entre l'humanité » et les hommes.
Oui, alors ce que vous venez de lire, là, Didier, bien entendu, est une pensée d'Auguste Comte, mmh. Et c'est extrait du système de politique positive, et donc ce qui peut inciter, ce qui l'a incité à créer une religion à la suite de sa philosophie. Donc, il est tombé amoureux, donc il était marié avec Caroline Massin. Alors, je me suis rendu compte, finalement, pendant que vous lisiez le portrait d'Auguste Comte et qui en faisait un vieux absolument décati, etc., qu'il n'était pas si vieux que ça, de toute façon, à l'époque de mon roman. Il est né en 1798, il avait donc en 1846, puisque ça se passe une journée d'avril, le roman se passe une journée d'avril 1846.
Oui, le 4 avril 1846 à Paris.
Exactement. Donc, c'est une date extrêmement importante. On le comprend quand on va jusqu'au bout du roman. Et il avait 48 ans, ce qui n'était pas si vieux que ça. Les deux femmes dont il s'agit, c'est donc sa femme Caroline Massin, qui l'a épousée. Et Caroline Massin, elle était née en 1802, donc elle avait 4 ans de moins que lui. qui l'a épousée et qui l'a répudiée par la suite. Il ne pouvait pas en divorcer. Donc l'histoire du divorce en France, on sait que le divorce avait été institué par la Révolution, que ça avait été abrogé, ça avait été d'abord entériné par le Code civil en 1804, donc toute l'époque napoléonienne, le divorce existait, et abrogé après, en 1816, par Louis XVIII, qui voulait faire du catholicisme la religion d'État. Donc, il ne pouvait pas divorcer de sa femme, il avait donc répudié, et il lui servait une rente, enfin en tout cas, de quoi vivre. Et donc, d'ailleurs, le début du livre, on voit Caroline venir réclamer à Auguste Comte une augmentation de sa rente qui ne lui suffit plus. Donc, Caroline Massin, sa femme, a été, ça explique finalement le pourquoi du roman, dans son testament, Auguste Comte, paraît-il, mais moi je n'ai jamais lu véritablement ça, et ça a été discuté par ceux qui ont écrit des biographies d'Auguste Comte, a écrit de sa femme que c'était une femme publique, et justifiant deux choses. Le fait de l'avoir répudiée, alors qu'elle avait été extrêmement présente lors de sa crise de folie et qu'elle était tout à fait capable de suivre ce qu'il écrivait, donc c'était une femme très intelligente, et justifiant aussi le fait qu'il ne voulait pas qu'elle hérite de lui. C'était extrêmement important, il ne voulait pas qu'elle joue les héritières abusives et les veuves abusives. Bon, donc dans son testament, il en aurait dit beaucoup de mal. Moi, je sais que je suis venue à la maison d'Auguste Comte, où il y avait donc où il y a les archives d'Auguste Comte, où il y avait la correspondance d'Auguste Comte, et j'étais venue donc il y a 30 ou 40 ans, je pense, à l'époque, pour lire la correspondance entre Comte et Caroline Massin. Et la conservatrice de l'époque, qui s'appelait, je crois, Gilda Andersen, et qui était brésilienne, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais dans son testament, Auguste Comte dit beaucoup de mal de sa femme. Et Gilda Andersen a pratiquement piqué une crise devant moi, elle trépignait en disant, je ne supporte pas qu'on dise de Caroline Massin que c'était une femme publique. Caroline Massin était une femme extrêmement intelligente, elle a sauvé de la folie Auguste Comte, elle était suffisamment intelligente et donc pour comprendre ce qu'il écrivait, le suivre, etc. Donc, je me suis dit, bon, très bien, j'ai lu la correspondance, et j'ai vu effectivement, dans les écrits de Caroline à Auguste, que c'était une sacrée femme. Et donc, je suis sortie, je me souviens être sortie à l'époque, donc ça fait de ça quelques décennies, être sortie de la maison d'Auguste Comte en me disant, un jour, je réhabiliterai Caroline Massin. Mmh. Et donc, c'est tout à fait évident que Caroline Massin est le personnage central du livre et que je cherche à la réhabiliter. Et on le voit dans ses rapports, ses échanges avec Émile Littré, qui était l'ami d'Auguste Comte, etc. On voit à quel point elle était intelligente, à quel point aussi elle avait du cœur, puisque elle craignait beaucoup pour la santé mentale d'Auguste Comte, du fait que Clotilde Devaux, dont il était tombé amoureux, dont il a été amoureux un an, parce que ça n'a pas pu durer plus longtemps, se refusait à lui. Donc cette idée de rencontrer celle qui n'était pas la maîtresse de son mari, mais peut-être pour la convaincre de l'être, ce qui était une démarche quand même assez bizarre, disons. Évidemment, c'est un scénario complètement fictif, ça n'existait pas. D'abord, en 1846 et en avril 1846, Caroline Massin ignorait l'existence de Clotilde Devaux. Elle ne connaîtra cette existence que bien après, bien sûr. Donc, Caroline, et c'est en ça que le roman est un peu féministe, j'essaie vraiment de la réhabiliter, c'est très important. Et l'origine, c'est ma venue, donc enfin, c'est Gilda Andersen. Si elle m'écoute, je lui dis merci, parce que vraiment, elle était à l'origine de ce roman, mais elle l'ignore.
Caroline Massin, qui est donc le personnage principal, disons, de ce roman, et pourtant, elle n'est pas dans le titre, la mijaurée d'Auguste C. On y entend la mijaurée, donc, Clotilde Devaux, on y entend Auguste C., donc Auguste Comte, mais pas Caroline.
Non. Parce que finalement, si Caroline n'y est pas, c'est quand même l'existence de Clotilde Devaux qui est à l'origine du roman quand même. Mmh. Puisque c'est en fait cette course dans Paris va faire courir Clotilde vers Caroline Massin et Auguste qui court derrière Caroline parce qu'il voudrait bien empêcher effectivement ce rendez-vous d'avoir lieu. Et finalement, il aura lieu. Donc, l'ami Juré, alors très curieusement, l'ami Juré, je mets ce mot dans la bouche de Caroline, qui dit, mais tu l'auras, ta mijaurée, je vais m'en occuper, et qui dit ça Auguste Comte dans le roman. Et c'est un terme, bon, donc j'ai commencé le roman en me disant que Clotilde de Vaux va en prendre pour son grade, parce que finalement, je l'imaginais, quand on prend Wikipédia aujourd'hui, et qu'on tape Clotilde de Vaux, on voit poétesse. Alors c'est vrai qu'elle avait écrit deux ou trois choses, où elle racontait sa vie, sa vie qui était pas marrante quand même. Elle avait épousé un homme. Alors je parle deux secondes de Clotilde de Vaux. Clotilde de Vaux était la fille d'un couple un petit peu curieux, en tout cas. D'un côté, il y avait sa mère qui était Henriette de Ficquelmont, donc était aristocrate, et de l'autre côté, son père qui était un militaire à qui, à la retraite, on avait donné la gestion d'une perception. Donc, il s'occupait, il était percepteur. Et quand sa fille Clotilde a épousé Amédée de Vaux, d'où son nom Clotilde de Vaux, il lui a passé la perception. Donc, Amédée de Vaux est devenu percepteur. Seulement, Amédée est parti avec la caisse. Et donc, Clotilde s'est retrouvée veuve d'un mari vivant, qui vivait en Belgique, et donc elle vivotait, elle, à côté, avec un père militaire qui était très difficile, et donc elle a raconté son histoire dans deux ou trois petites nouvelles, dont une qui s'appelle Lucie, qui raconte vraiment des nouvelles qui paraissaient comme les choses paraissaient à l'époque, dans les journaux. Il s'agissait de feuilletons, bien entendu, et donc qui était paru dans National, de l'époque, un journal qui s'appelait Le National. Voilà. Donc, de loin, Clotilde de Vaux me paraissait vraiment la mijaurée, c'est-à-dire quelqu'un très très alangui, pour des raisons, on le comprendra après, qui pleurnichait un peu sur sa vie, qui écrivait comme elle pouvait, et donc et qui faisait languir Auguste Comte en lui disant un jour oui, un jour non. Donc voilà, pour moi c'était une mijaurée, c'est certain. Seulement, ce qu'il arrive toujours, et en tout cas, ce qui m'arrive à moi, mais qui doit arriver à des tas d'écrivains, c'est-à-dire qu'on commence à lire avec des idées préconçues sur ces personnages, et puis les choses évoluent. Et finalement, le personnage de Clotilde n'a pas été du tout, à la fin, en tout cas, il ne sera pas pour le lecteur, le personnage que j'avais en tête quand j'ai commencé à écrire ce roman.
Comment comprendre le cœur d'Auguste Comte? Comment comprendre ce cœur qui se balance de deux côtés très différents, puisque ces deux femmes ne se ressemblent pas du tout?
Oui, c'est-à-dire qu'il a prétendu, mais c'est là où il est quand même pas très sympathique, Auguste Comte. Il a prétendu que finalement, il n'a jamais été vraiment amoureux de Caroline, mais l'époque était un peu différente, et les rapports hommes-femmes n'étaient pas ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il a pu en dire du mal, il a eu l'impression, en épousant Caroline Massin, qu'il faisait œuvre de, à la fois, et d'indulgence, et puis qu'il permettait à Caroline Massin de une sorte de rachat. Enfin bon, il y avait vraiment une vision assez noble là-dedans. Bon, et puis il se trouve qu'il a été reçu dans la famille de Clotilde de Vaux, puisqu'il était examinateur à l'école polytechnique. Il n'a jamais été véritablement professeur d'ailleurs. Il a cherché à l'être très longtemps, mais il était examinateur à l'école polytechnique, c'est-à-dire qu'il faisait des entretiens avec ceux qui entraient à l'école. Voilà. Et donc, il avait connu Maximilien, qui était le frère de Clotilde, et d'ailleurs qu'il avait refusé à l'examen d'entrée. Mais enfin, apparemment, Maximilien ne lui en a pas voulu, et Maximilien considérait Auguste Comte comme le plus grand philosophe vivant. Donc, ce qu'il était sans doute un peu à l'époque, enfin, je veux dire, le positivisme, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, il a été reçu dans la famille de Vaux, et puis il a vu cette superbe jeune femme qui avait presque 20 ans de moins que lui, et donc qui lui a paru être vraiment l'idéal féminin incarné, quoi. Voilà. Bon, ceci étant, vous avez parlé du cœur d'Auguste Comte, alors qu'il a été séduit, c'est évident. le cœur était peut-être placé, à mon avis, un peu plus bas pour dire les choses trivialement. Mmh. Il n'avait quand même qu'une idée, c'était devenu une idée fixe. Il voulait absolument posséder, il voulait qu'elle soit sa femme, et il lui écrivait des lettres où il lui disait crûment, il disait qu'il n'en dormait pas, et que il lui avait confié ce qui avait été sa crise de démence dans le passé, quand il avait 28 ans, etc. Et donc, il y avait une espèce de chantage même, en disant, si vous ne me cédez pas, je ne sais pas ce que je vais devenir, et sans doute je vais redevenir fou, enfin c'était à peu près ça. Et donc la pauvre Clotilde, qui était apparemment une femme extrêmement sympathique, elle se disait, mais c'est pas possible, je peux pas le laisser dans cet état. Donc voilà pourquoi elle était venue le voir, elle avait dit oui, d'accord, etc. Donc tout devait se passer un jour bien déterminé, rue Monsieur le Prince. Et puis ça s'est pas passé, parce que Clotilde s'est sauvée, parce que devant Auguste, elle a pas pu sauter le pas, quoi, voilà.
Ce roman, La Mijaurée d'Auguste C, aux éditions Diabase, est aussi un roman qui raconte très brillamment un certain Paris, le Paris du milieu du 19e siècle. Les opéras de Verdi au Théâtre Italien, aujourd'hui l'Opéra Comique, l'Asile des Femmes Folles à l'Hôpital de la Salpêtrière, les promenades bucoliques dans les jardins du Palais Royal ou la Galerie de Valois, la mise en service des premiers omnibus, le roulement des fiacres sur le pavé et les cris des cochers. Vous vous êtes lancé dans une entreprise presque naturaliste concernant la ville.
D'abord, Auguste Comte était, bien que né à Montpellier, et bien qu'à un certain moment je l'ai fait regretter la ville de Montpellier, mmh. parce qu'il signe que Paris est une ville qui rend fou, etc. Il signe que peut-être il ne serait pas tombé fou, il n'aurait pas eu cet épisode de folie à Montpellier, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était un grand marcheur. Et il était tout à fait évident que pour lui, il était important que sa philosophie soit ancrée à Paris, que la religion donc qui va naître de cette philosophie positive, grâce à Clotilde de Vaux, dont il va faire la déesse de sa religion, bien sûr, la déesse mère, que tout ceci se passe à Paris. Et là, je voudrais dire que, par exemple, demain, je vais présenter ce livre à la Chapelle de l'Humanité. Et celui qui m'interrogera sera David Labreur, qui est le directeur de la maison d'Auguste Comte et donc le conservateur, en quelque sorte, de la Chapelle de l'Humanité. Et David Labreur a écrit, entre autres choses, un petit livre qui s'intitule, c'est vraiment un tout petit livre, « Le Paris d'Auguste Comte », que j'engage vraiment tout le monde à lire, parce que on comprend à quel point Auguste Comte était un Parisien. C'est-à-dire que à quel point Paris a nourri aussi sa philosophie.
Oui, absolument, et vous l'écrivez, je vous cite, « Prendre un fiacre ne l'avancerait pas, à Paris, on va plus vite à pied. Des années durant, marcher a été son sport obligé pour fuir son foyer agité et méditer en paix. Il a par tous les temps, soir et matin, marché sans but ni fin, la tête ayant besoin des pieds pour fonctionner, la perfection de sa philosophie et l'ampleur de sa réflexion devaient beaucoup à ses déambulations. Rythmée par ses pas d'arpenteur, sa pensée collait à la géométrie embrouillée de Paris, à son relief aussi, hésitante au carrefour, confuse dans les ruelles, essoufflée dans les montées, elle s'affermissait sur les boulevards, se développait dans les avenues. Quand il rentrait en son cabinet, elle était ce qu'elle devait et il la consignait sur papier, sans une rature, d'un seul jet, nécessaire et parfait.
J'aime beaucoup Didier quand vous lisez des extraits de mon livre, je trouve ça très bien finalement, donc vous lisez très bien. Oui, c'est absolument certain. Et alors, à propos de Comte, donc il marchait. Alors je pense qu'il y a deux raisons à ça. Donc quand il a eu son épisode de folie qui fait que il a été enfermé chez le docteur Esquirol, il a été soigné, etc. Bon, et il en est sorti peut-être pas complètement soigné, mais il a décidé de se soigner, lui, avec des méthodes qui étaient, on appelait ça une sorte de naturopathie aujourd'hui, etc. Enfin bref, des méthodes à lui. C'est-à-dire qu'il pesait son manger, il prenait son temps pour lire, pour écrire, pour penser, pour marcher. Et donc, la marche et la marche dans Paris a été quelque chose sans doute d'extrêmement important, mais en fait, aujourd'hui, il serait extrêmement moderne. Aujourd'hui, on recommande aux gens de faire 10 000 pas par jour. Mmh. Bon, à mon avis, Auguste Comte faisait plus que 10 000 pas par jour. Bon. Et la fin de l'extrait que vous avez lu, ça correspond tout à fait à Auguste Comte. Auguste Comte, il n'y a pas de brouillon chez Auguste Comte. Auguste Comte pense. Donc, ça devait tourner, il devait y avoir une vie neuronale absolument extraordinaire dans son cerveau. Et quand il se mettait vraiment à écrire, Il écrivait d'un seul jet, sans, et il n'y avait pas de rature. C'était d'abord, il avait une mémoire phénoménale, la mémoire non seulement de ce qu'il pensait sans doute, mais de ce qu'il lisait. C'était un homme qui était capable de lire, peut-être pas un livre entier, mais enfin, il lisait quelque chose, il le récitait, il était même capable de réciter des poèmes à l'envers. Enfin bon, donc il avait quand même des capacités mentales tout à fait remarquables. Et donc c'est vrai que cette marche dans Paris a été extrêmement importante. Et puis c'était Paris était, on dit aujourd'hui Paris est bruyant, mais non, Paris est pas bruyant. À l'époque des fiacres, à l'époque des chevaux, à l'époque, c'était infernal. Il y avait le bruit était sans doute infernal par rapport à celui des voitures aujourd'hui qui ne klaxonnent plus, etc. Enfin bon, en fait, Paris est calme.
Et nous allons conclure notre entretien en approfondissant, en reparlant un petit peu plus de ce lien entre le positivisme et le Brésil.
Oui, alors justement, donc ce lien, il est lié... Alors, du fait que je crois que la religion positiviste qui a été imaginée par Auguste Comte, et si elle a été imaginée, c'est parce que il avait dans l'idée que pour éviter l'anarchie qu'il avait connue d'une certaine façon, il fallait absolument une religion, que la religion existe. Or, cette religion... le positivisme l'avait rayé en quelque sorte, puisque le positivisme c'est le contraire de la transcendance. Il a imaginé une religion qui était la religion de l'humanité. Le grand être c'est l'humanité, et notamment les liens entre mort et vivant, ce que les vivants doivent aux morts, cette chaîne d'union extraordinaire depuis l'origine de l'humanité jusqu'à, bon, peut-être son extinction, je ne sais pas quand, si l'humanité doit s'éteindre. Mais il y avait cette espèce de reconnaissance de ce qui avait été fait avant par les autres. Et donc, ce culte des morts par les vivants est extrêmement important. Et parmi les morts, il s'agit de mortes. En fait, il y a trois déesses dans sa religion. C'est Clotilde de Vaux dont il a fait la déesse mère. Il avait même imaginé comme elle se refusait à lui. Il avait prétendu à un certain moment, je crois qu'il avait prétendu à Littré, à Émile Littré, qu'un jour viendrait où la femme ferait des enfants sans avoir besoin de l'homme. Bon, finalement, on se demande s'il n'est pas visionnaire. Mmh. Parce que demain, avec les utérus artificiels, etc., on peut très bien imaginer que la sexualité n'aura plus rien à faire dans la conception des enfants. Enfin bon... que le monde changera. Donc il y a quelque chose ici qui est à la fois surprenant et puis qui fait un petit peu sourire. La deuxième personne importante de sa religion, c'était sa mère, Sophie Boyer. Non, c'est Rosalie Boyer, je me trompe. Et sa gouvernante, dont il a fait, qui évidemment s'occupait de son quotidien. Mais dans cette religion de l'humanité, il faut voir que c'est cette absence... non pas de Dieu. Bon, Dieu, le temps, l'époque, la révolution avait tué Dieu, avait tué le roi, et par la suite on tuerait le père. Et en fait, parmi toutes les utopies absolument extraordinaires qui fleurissaient chaque jour, c'est-à-dire pour essayer de régénérer la société ou concevoir une société qui marcherait, etc., je pense que la religion d'Auguste Comte n'était pas la pire des utopies. Et donc, en fait, tous ses amis qui admiraient sa philosophie l'ont lâché, pratiquement, à partir du moment où il a imaginé cette religion, qu'il a imaginé sur le modèle, bien sûr, de la religion catholique. Mmh. Donc, on voit, par exemple, la chapelle de l'Humanité, il y a vraiment un autel, donc c'est un truc gothique un peu, mais un autel comme dans les églises, comme dans les cathédrales, etc. Enfin bon. Donc c'est vrai que ça pouvait paraître un petit peu bizarre, mais moi je suis de ceux et de celles qui ne sont pas très nombreux, qui pensent que c'est absolument la conséquence logique de sa philosophie, qui était une philosophie sociale. Il faut savoir qu'Auguste Comte, c'était un être qui avait le sens de l'instruction pour les autres. Il a terminé sa vie en donnant des cours... gratuit, à peu près partout, dans l'équivalent des mairies de l'époque, etc. Et sa philosophie et ce social-là inspiré beaucoup de gens. Jules Ferry, à qui l'on doit l'instruction gratuite obligatoire, l'AI gratuite et obligatoire, a été inspiré par Auguste Comte. Deux grands écrivains ont été inspirés par Auguste Comte. Émile Zola a été inspiré par Auguste Comte. Jules Verne a été inspiré par Auguste Comte. On prétend que Michel Houellebecq l'a été aussi. Bon, peut-être, oui, par certains côtés. Bon, dans Wikipédia de demain, ben on pourra peut-être ajouter mon nom, à savoir que j'ai franchement été inspirée par Auguste Comte, qui a conduit ma vie d'une certaine façon.
Et votre nom, c'est Elisabeth Lerodol. Vous nous avez parlé aujourd'hui de votre dernier roman. Il s'appelle La Mijaurée d'Auguste C. Un roman donc d'Elisabeth Lerodol, publié aux éditions Diabaz. Courez l'acheter, chers auditeurs, chères auditrices. Courez l'acheter dans toutes les bonnes librairies ou trouvez-le sur Internet. Il s'appelle donc La Mijaurée d'Auguste C. Il est signé Elisabeth Lerodol et il est publié aux éditions Diabaz. Merci beaucoup, Elisabeth.
Merci à vous, Didier.